Et c'est l'heure, Raphaël Duchemin, de retrouver Elisabeth Assayag pour sa solution du jour.
Ah, créer nos propres vêtements, Elisabeth. Et on
oui.
en rêve,
hein, ah oui,
que l'on
rêve.
Soit doué ou non, comme moi, en couture.
Moi
Je
aussi.
Crois que vous avez trouvé la solution. Ça s'appelle dressing désirable.
Mais oui, porter la pièce de nos rêves cousue à la main, fabriquée en France. Eh bien, c'est l'idée du site Dressing Désirable. Ça existe depuis un an. Et que l'on soit doué en couture ou non, Dressing Désirable nous aide à créer nos propres vêtements. Le concept, c'est qu'il suffit d'envoyer notre tissu préféré, celui que l'on choisit, pour recevoir en quelques semaines la pièce de nos rêves cousue à la main et fabriquée en France. Vous apportez le tissu et puis le tour est joué. Le site prend en charge toute la partie confection et on peut dire que ça répond à cette demande pressante de consommer différemment dont on a tous un petit peu envie. Bonjour Marie Gauthier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Avec Dressing Désirable, je peux créer ma propre garde-robe. Elle sera unique.
Exactement. L'idée, en fait, c'est de pouvoir confectionner son vêtement dans le tissu que l'on souhaite. Nous, on s'est rendu compte, à la base, on fait du patron couture, et on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement beaucoup de jeunes femmes, de jeunes hommes qui essayaient de coudre, mais qui n'y arrivaient pas, par manque de temps, par peur, ou tout simplement parce que l'activité n'était pas activité coup de cœur, comme peut l'être la cuisine ou le jardinage, mais qui avaient quand même cette volonté d'avoir un vêtement unique, cousu pour soi, que ça soit pour une occasion particulière ou simplement parce qu'on en a marre aussi d'avoir le même vêtement que monsieur et madame tout le monde croisé dans le métro, dans le bus ou au travail, ou parce qu'on vient de voyage avec un tissu et qu'on a envie de le transformer en une chemise, en une robe pour un événement particulier ou pour la vie de tous les jours. Et du coup, bah, nous, on s'est dit, on va devenir les couturiers de monsieur et madame tout le monde pour réaliser donc tous ces vêtements.
Alors, comment ça se passe? J'apporte mon tissu, ça se fait en ligne
Alors, ça se fait en ligne.
On prend une photo du tissu ?
Alors, en fait, nous, on a donc une patron tech aujourd'hui de plus de 50-60 modèles. Vous choisissez le modèle.
C'est-à-dire, on choisit le modèle patron tech et on choisit
On choisit la forme, voilà. D'accord. Donc, ça peut être aussi bien un manteau, une combinaison, une robe, une blouse, une chemise, un pantalon. Voilà, il y a vraiment une large sélection. On vous conseille des tissus parce qu'on ne va pas réaliser, par exemple, dans un jean, une blouse très fluide, ou on ne va pas réaliser avec une matière t-shirt extensible. Un pantalon si on veut quelque chose d'un peu plus saillant, un peu plus droit. Donc, on vous conseille des tissus. On vous met d'accord d'ailleurs des liens vers des boutiques en ligne de tissus pour vous donner un petit peu des exemples de ce qu'il est possible de faire. Maintenant, on est aussi tout à fait à l'écoute et on échange beaucoup avec les clients s'ils ramènent des tissus de voyage ou s'ils ouvrent la malle de la grand-mère et qu'ils trouvent des tissus d'antan. On reçoit aussi beaucoup, par exemple, de vieux draps qui ont été lavés et relavés et qui sont devenus très souples, très doux, avec des petits détails de broderie qu'on ne trouve plus maintenant. Voilà, et du coup, il y a un vrai échange qui se crée avec les clients sur la nature même du tissu et quel type de modèle on va pouvoir nous conseiller et préconiser.
Ça prend beaucoup de temps ?
En amont, oui. Surtout quand on ne s'y connaît pas du tout en couture. Voilà, il y a vraiment un vrai accompagnement sur le choix du tissu parce que l'idée, c'est de ne pas être déçu. Après, on peut avoir une super surprise. C'est un tissu auquel on ne pensait pas du tout. Et en fait, le rendu est top. Et alors là, d'un seul coup, je trouve que la pièce devient encore plus unique. Mmh. Mais voilà, il y a un vrai travail d'accompagnement en amont. Après, nous, on gère tout ce qui est partie découpe et confection.
Evelyne ?
Oui, ce qui est très intéressant, c'est que vous faites revivre les couturières. Oui. Et c'est aussi une façon de les fédérer à travers du digital.
Oui.
Parce que ce sont des métiers qui sont dispersés un peu partout en France. Puis peut-être donner aussi la possibilité de faire travailler des gens qui ne peuvent pas travailler en dehors de ce type en fait, de proposition, de valeur. Oui. Des gens qui ne peuvent pas se déplacer et autres. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Je suis une femme, j'adore les vêtements. Avoir mes propres vêtements, c'est super. Mais en fait, j'ai une question, c'est le tissu. Moi, j'ai vu disparaître pendant des années toutes ces boutiques de tissus. Je vois bien revenir de Thaïlande, d'Inde avec des tissus. Hein,
alors,
où est-ce que j'en achète ?
Alors, elles disparaissent en boutique physique, mais en boutique en ligne,
je ne peux pas toucher.
Non, on ne peut pas toucher. Mais alors après, moi, le meilleur conseil que je donne, en fait, c'est on regarde dans son placard ce qu'on a déjà. On regarde les étiquettes de composition.
Et peut reprendre un ancien vêtement et vous l'apporter.
Alors, reprendre un ancien vêtement, non, parce que du coup, le vêtement étant déjà découpé.
Mais regardez la
matière
qu'on aime porter.
C'est ça, à l'intérieur, vous allez toujours avoir les compositions. Alors, avec du tencel, du lyocell, ça, c'est les matières qu'on aime beaucoup en ce moment, parce qu'elles sont souples, elles sont fluides et elles ont des fabrications un peu plus éthiques que le polyester. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à aller regarder ce qu'on a déjà dans son dressing et ce qu'on aime porter. Et aujourd'hui, ce type de tissu, on les trouve en ligne très facilement.
Niveau prix, vous vous situez comment ?
Alors, pour une petite blouse, ça va aller de 45 à 65 euros. Après, tout ce qui peut être, par exemple, robe longue, combinaison, qui sont des pièces un peu plus longues à confectionner, on ne dépassera pas les 80 euros.
C'est pas cher du tout.
Non. Combien de personnes travaillent avec vous aujourd'hui?
Aujourd'hui, on est deux et on a en fait...
Des ateliers,
voilà. On a multiplié, ça a été pour nous notre plus gros travail de recherche, c'était de trouver l'atelier qui accepte de confectionner à la pièce unique et pas en mini-série. Voilà, qui accepte de nous suivre dans ce défi-là.
Et c'est en France.
Et c'est tout en région parisienne.
Merci beaucoup, Marie Gauthier. Ça s'appelle Dressing Désirable. C'est la solution aujourd'hui sur Europe 1.
Il est midi 58.
Europe 1.
Vous restez avec nous, 3921 et Twitter, on vous attend. Venez parler algues sur Europe 1. A tout de suite.
Europe 1. Midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant dans La France bouge, vous savez que vous pouvez décrocher votre téléphone pour être avec nous en direct, Céline.
Bien sûr, vous nous appelez au 3921, c'est 50 centimes la minute. Vous pouvez également nous écrire sur Twitter, @ou #Europe 1.
Oui, parce qu'aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble le dossier des algues. Vous avez comme nous entendu parler des algues vertes cet été, si vous étiez par exemple en Bretagne, des micro-algues aussi qui font parfois tourner la couleur de l'eau, ou bien des bras de fer entre les autorités et les restaurateurs quand elles s'invitent sur le bord de nos plages et qu'on a interdiction formelle de les enlever. Chaque année, c'est un véritable feuilleton. Eh bien, nous avons eu envie de le prolonger, mais en vous montrant que oui, les algues peuvent être utiles. Bonjour Philippe Lavielle.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de Fermentalgues. Vous, vous travaillez précisément sur ce qu'on appelle les micro-algues. Et pour vous, ces micro-organismes, on a peut-être un petit peu oublié quelles étaient finalement leurs capacités.
Tout à fait. Les micro-algues représentent en fait une famille biologique très très large. C'est une des familles biologiques les plus vastes du monde. Il y a entre 200 000 et 800 000 types, familles de micro-algues. La mission de Fermentalgues est en fait de mettre un peu d'ordre dans cette énormité, dans cette grande diversité et de tirer les avantages des micro-algues dans les domaines de la nutrition, de la santé et de l'environnement.
Alors, pour ça, vous les mettez en fermentation, d'où votre nom, Fermentalgues. Ce procédé, cette technologie, vous permet par exemple d'en exploiter les molécules dans de nombreux domaines. Vous l'avez dit, la santé, la nutrition. Mais vous dites aussi, demain, grâce à ces techniques que vous êtes en train de développer, on pourra, au lieu de prendre des oméga-3 et d'aller les chercher dans les poissons, eh bien, on pourra les prendre dans les algues.
Tout à fait. L'exemple des oméga-3 est un exemple très parlant. Jusqu'à présent... les oméga-3 qui sont des acides gras essentiels pour la santé humaine et animale.
Qu'on trouve par exemple dans les poissons bleus. Hein.
Voilà, on trouve dans les poissons gras. Ces oméga-3 étaient produits par une extraction, d'abord par une pêche intensive de la sardine, des harengs, des poissons gras. Donc on envoyait des flottes de bateaux pêcher cette ressource halieutique et on en extrayait des acides gras. Et nous nous sommes posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? On sait qu'à l'heure actuelle, il y a près de 30% des stocks de poissons qui sont en situation de surpêche. Donc c'est un problème assez urgent et on s'est demandé s'il n'y avait pas une autre façon de produire des oméga-3. Et en fait, une bien meilleure façon est de travailler des micro-algues qui naturellement produisent ces oméga-3. Et en fait, elles sont au tout début de la chaîne alimentaire de l'océan. Donc elles synthétisent des oméga-3 qui sont ensuite absorbés par d'autres micro-organismes et qui sont ensuite absorbés par des poissons. Les poissons ne font en fait qu'accumuler ces oméga-3. Donc, une des premières missions de Fermentalgues a été de rechercher les meilleures micro-algues productrices d'oméga-3, de les mettre en œuvre de façon industrielle, et ça, c'est pas une mince affaire, et de développer cette production à grande échelle, puisque pour faire concurrence à des oméga-3 dits de poisson, il faut atteindre des échelles industrielles assez conséquentes. Et c'est là tout l'enjeu de Fermentalgues, de mettre les techniques, les biotechnologies, les techniques de fermentation en œuvre pour fabriquer notamment des oméga-3 et se substituer à la pêche intensive. Donc il y a une forte connotation ESR dans ce que nous faisons. Nous voulons nous substituer à des industries qui n'ont pas un profil de durabilité très recommandable.
Alors, vous dites notamment, parce qu'effectivement, vous avez d'autres développements possibles. Moi, ce qui m'a bluffé vraiment, c'est que vous dites, ces algues-là, ces micro-algues, c'est un filtre naturel de la mer. On peut, grâce à elles, capturer, je schématise, hein, la pollution de l'air. Et je crois que vous avez installé avec Suez des démonstrateurs, des sortes de colonnes qui font 4 mètres de haut. À l'intérieur, c'est ouvert. Hein. Il y a ces fameuses micro-algues. Et elles viennent biofiltrer, c'est-à-dire capturer le CO2.
Tout à fait. C'est un sujet d'actualité. La technologie que nous avons développée est en fait assez ancienne. Elle a plusieurs années. Et nous avons fait, avec le groupe Suez, un partenariat de développement technologique et commercial, avec l'anticipation que cette technologie serait appliquée au milieu urbain et industriel pour dépolluer l'atmosphère.
Donc demain, je vais avoir dans la rue là, une colonne de 4 mètres de haut avec à l'intérieur entre 300 et 1000 litres d'algues qui vont faire le travail des arbres.
Alors, l'échelle pourra être beaucoup plus grande que ça. Mm-hmm. Mais effectivement, le principe sera d'utiliser les micro-algues, la biologie des micro-algues et la photosynthèse pour capturer à la fois du gaz carbonique et donc faire des abattements de gaz carbonique et de recycler en fait ce gaz carbonique en énergie. Et deuxièmement, et ça ce sont des données assez nouvelles que nous avons obtenues du laboratoire INERIS, nous avons maintenant la possibilité de démontrer qu'il y aura un abattement de pollution, donc d'éléments polluants comme des particules fines. Mmh. et des oxydes d'azote. Et donc cette technologie-là peut d'une certaine façon être considérée comme un puits de carbone,
oui.
Donc comme un capteur de carbone. Et pour vous donner une idée de l'échelle, un mètre cube de cette technologie équivaut à 100 arbres en termes de capture de carbone. Et la deuxième application est d'utiliser cette technologie pour créer des abattements de pollution dans nos centres urbains. Et donc, ces abattements de pollution seront mesurés en matière de particules fines. Et on sait combien les particules fines et les NOx, les oxydes d'azote, ont un impact fort sur la santé publique.
La coach, Evelyne.
Oui, bah c'est une formidable entreprise déjà. Hein. C'est une entreprise déjà qui est en pleine réussite et qui est sur le marché depuis
2010.
Oui. Non, la question, c'est aujourd'hui ce savoir-faire-là. On a l'impression qu'il est très français. Est-ce qu'on a des concurrents à l'international?
Oui, tout à fait.
Et est-ce qu'il y a de la micro-algue en Chine? Ce qui serait déjà un peu plus.
Est-ce que ce sont les mêmes d'ailleurs?
Alors, il y a effectivement. C'est une industrie qui s'est déclarée il y a une dizaine d'années. Et nous avons des concurrents aux États-Unis, nous avons des concurrents en Asie. La Chine. Comme toujours, prend le train en marche. C'est une industrie qui est fondée sur une technologie et des brevets importants. Donc, l'enjeu maintenant est de mettre en œuvre des ressources grandissantes pour développer cette technologie, développer des nouveaux brevets, et ensuite de monter en échelle le plus rapidement possible avec cette technologie. Donc effectivement, il y a de la concurrence sur tous les continents, principalement, mais on est là. les sujets sont tellement vastes. Vous parlez de nutrition et un des deuxièmes axes en dehors des oméga 3.
On y reviendra tout à l'heure si vous le voulez bien, parce qu'effectivement on pourrait y passer des heures, mais je voudrais qu'on regarde justement ce que les scientifiques disent des forêts d'algues, Elisabeth. Ça pourrait effectivement être efficace contre le changement climatique. On a pris le tournant, ça y est.
Ou complètement. Il y a de plus en plus d'études qui documentent les bienfaits de l'algoculture dans la lutte contre le changement climatique. D'après les chiffres d'un article publié dans la revue Current Biology, c'est américain, la mise en place de l'algoculture sur seulement, et je vous donne un petit exemple, 3,8% des eaux fédérales au large de la Californie, ça pourrait neutraliser les émissions dégagées par l'industrie agricole de l'État évaluée à 50 milliards de dollars. Ça, c'est un exemple. Donc là, les scientifiques, la proposition des scientifiques, ça concerne cette fois la création de fermes à l'échelle industrielle qui pourraient être destinées à cultiver les algues jusqu'à maturité, ils les récoltent, ensuite ils les enfouissent dans les profondeurs de l'océan où le dioxyde de carbone qu'elles ont absorbé sera confiné pour des centaines de milliers d'années. On n'en est qu'au début, j'ai l'impression.
On n'en est effectivement qu'au début et vous allez encore avoir des surprises. Restez avec nous.
Il est 13h20.
Europe 1.
Et si les algues étaient aussi une matière de substitution demain, elles pourront remplacer le plastique. C'est ce que fait d'ailleurs Algopac. A tout de suite.
Dossier du jour consacré aux algues dans La France Bouge. On parle des technologies développées autour de ces algues. Et vous, est-ce que vous connaissez le sujet? En consommez-vous dans votre assiette, vos cosmétiques par exemple? Dites-le nous sur Twitter, @ou hashtag Europe 1, ou appelez-nous au 3921, c'est 50 centimes la minute, Raphaël.
Et si la matière plastique qu'on essaye de faire disparaître était demain remplacée par des matières naturelles? C'est ce que fait justement Algopac. Bonjour David Coty.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de cette PME qui s'est donné pour mission de remplacer le plastique issu du pétrole par les algues brunes. Je dis bien algues brunes. Dites-nous d'abord comment est née l'idée.
Alors l'idée, c'est le regroupement d'une expérience professionnelle d'un ingénieur dans la plasturgie et de sa famille de Bretonne, de Goémonier. Ouais. Il s'est dit, si on pouvait utiliser cette ressource qui a longtemps servi à faire des vitraux, des choses comme ça, de pouvoir apporter une vraie solution aux problématiques des plastiques, puisqu'ils voyaient tous les ans les quantités de plastique produites exploser et pas forcément le retraitement et la filière de l'après-utilisation.
Mais pourquoi les algues brunes? Elles ont une spécificité?
Alors les algues brunes, macro-algues brunes, oui, elles ont une spécificité. Elles sont déjà beaucoup moins chargées en eau que des micro-algues vertes. On va être à 90% d'eau, alors qu'une micro-algue verte, ça va être plutôt 98%. Donc on a beaucoup d'intérêt pour ce qui est fibreux, ce qui va permettre de faire de la matière, et également leur composition, ce sont les polysaccharides, les sucres, qui permettent de créer cette chaîne et cette cohésion.
Donc avec ces algues brunes qui vont être broyées, qui vont être travaillées, vous arrivez à faire aujourd'hui, alors vous nous avez amené quelques exemples, des pots par exemple ou des gobelets, même des brosses pour les toilettes.
Alors on a toute une gamme de produits qui est faite avec de l'algo blend. Nous avons deux gammes de matières. L'algo blend, c'est une alternative au tout plastique, exactement. On garde une partie issue du pétrole, du plastique pétro, pour avoir une durée de vie plus importante. Et nous avons la matière algopac, qui, elle, est la matière révolutionnaire, qui est composée de 100% d'algues. Donc c'est bio, biodégradable, biocompostable, biosourcé à 100%.
Et oui, là, ça on veut dire qu'en fin de vie, du coup, cette matière-là, elle pourra...
Voilà, c'est l'exemple du pot horticole que vous avez,
qui est ici.
Dans lequel la plante peut être directement replantée en terre sans créer le déchet du pot plastique marron ou noir, qui, une fois que vous avez replanté dans votre jardinière la fleur achetée, bah vous ne savez pas quoi en faire à part le jeter.
L'autre intérêt, c'est que l'algue brune, arrêtez-moi si je me trompe, à la boîte naturelle, elle est quand même extrêmement invasive. Donc, non seulement on résout un problème, mais ce qui était un problème devient aussi une solution.
Alors, effectivement, depuis 2 ans et les arrivages massifs de pollution dans la zone des Antilles, de la Caraïbe, par les sargasses, on a porté nos recherches pour avoir des formulations qui puisse intégrer cette matière invasive, cette pollution dans la fabrication de nos produits. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de mettre en place des centres de collecte et de protection des échouages par des barrages qui permettent d'éviter ces échouages. Et quand l'algue va se mettre à dégazer, c'est un problème de santé publique, clairement, puisque ce sont des dégazements d'hydrogène sulfuré, mm-hmm. d'ammoniac sulfuré, donc des gaz qui attaquent les poumons et qui créent un vrai problème de santé. Notre objectif, c'est donc de protéger les côtes grâce à des barrages, de ramasser et récolter derrière pour soulager les barrages et éviter l'érosion de cette algue qui tapisse après le fond des océans et de la belle mer bleue, et d'avoir un approvisionnement de quantité importante pour pouvoir produire en grand.
Et ces barrages, ils sont eux-mêmes fabriqués en
sargasse. Une partie, c'est ça, c'est ce qu'on est en train de développer, que le grillage soit fait avec de la matière algoblend sargasse, que les bouées soient faites avec de l'algoblend sargasse également.
Que dit notre coach, Evelyne?
Moi, je suis allée chercher un petit peu tout ça sur Internet, hein, parce que les algues, ce n'était pas mon quotidien avant cette émission. Et en fait, je vois, vous transformez, vous faites des billes d'algues, hein, mais vous allez jusqu'à la fabrication d'objets. Est-ce que c'est ça. Hein, vous avez
alors l'objectif de l'entreprise, on produit quelques objets aujourd'hui plus pour l'exemple. L'objectif à terme, c'est d'être un producteur de matière pour que des transformateurs
voilà,
qui aujourd'hui sont déjà équipés et que les outils de la plasturgie traditionnelle puissent être utilisés pour transformer les granules.
Et alors là, vous en
granules.
Êtes où, là, justement, sur, sur ce sujet-là? Parce que l'intérêt, c'est qu'il y ait des gens qui comprennent l'intérêt de votre offre. Alors, vous en êtes où?
Alors, la démarche, elle a été un peu différente. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir les injecteurs qui, au début, sont un peu réticents parce que ce sont des transformateurs, ils ont déjà leurs fournisseurs et autres, c'est plutôt les grands donneurs d'ordre qui se sont présentés comme étant intéressés pour transformer leur packaging, leur production et de faire utiliser cette matière et de faire des tests avec leur transformateur. Donc, la démarche était un petit peu... à l'envers. On n'est pas arrivé avec un produit. Ce sont des industriels qui sont venus avec la volonté d'intégrer ces matières algaux dans leur production et qui nous aident justement et qui aussi parfois financent une partie de la recherche.
Elisabeth, on n'a pas dit, mais il y en a des tonnes d'algues.
Des tonnes qui sont produites chaque année dans le monde. 15 millions de tonnes d'algues produites chaque année. Dans ces 15 millions, 75% d'entre elles se retrouvent dans nos assiettes, dont on va parler tout à l'heure. C'est ce que souligne le CEVA, le Centre d'études de valorisation des algues. Quelques 800 000 tonnes sont récoltées par an en France et elles sont utilisées sous plusieurs formes, à la fois pour fabriquer des objets, mais aussi pour l'industrie agroalimentaire, pour l'industrie pharmaceutique ou cosmétique.
On reste ensemble et on continue à s'intéresser au pouvoir des algues aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h29.
Europe 1.
Et pourquoi ne pas se servir des algues pour nourrir les animaux? C'est ce que fait Holmix, devenu l'un des leaders mondiaux de la chimie bleue. A tout de suite.
La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec un dossier du jour consacré aux algues. Alors c'est vrai qu'on râle un petit peu quand on les retrouve sur nos plages l'été, mais elles sont indispensables et on l'entend, elles peuvent être très utiles. Réagissez à ce sujet, envoyez-nous vos messages via Twitter, @ou #Europe 1 ou appelez-nous, Raphaël, au 39-21, c'est 50 centimes la minute.
Et quand on parle d'élevage, tiens, c'est vrai que c'est un des problèmes qu'on connaît, qu'on pointe du doigt, c'est souvent l'utilisation des antibiotiques. Eh bien, vous allez voir que Holmix a trouvé la solution. Bonjour Hervé Balusson.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de ce groupe breton qui existe maintenant depuis 30 ans, c'est ouais. Ça. Hein. Votre spécialité, les compléments nutritionnels pour animaux, en tout cas au départ, à base d'algues vertes et rouges. Ces algues, ce sont celles qui polluent justement notre territoire?
Oui, complètement. Enfin, qui polluent, c'est ce qu'on
pour
dit.
Pour les touristes,
elles sont
en
là,
tout cas.
Elles sont là depuis 3 millions d'années.
Elles étaient là bien avant nous,
elles
oui.
sont là depuis 3 milliards et demi d'années. Bon, c'est vrai que quand on trouve un peu de nitrate, bon, la salade est un peu plus grasse. Voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, le CO2 et l'acidification des fonds marins est certainement beaucoup responsable de tout ça.
Alors dites-moi, comment est-ce que vous avez eu l'idée de vous servir des algues pour remplacer les antibiotiques?
Déjà, nous, on est bretons déjà. Donc, les algues et la Bretagne, c'est une histoire qui remonte à la préhistoire.
Tout à fait.
Utiliser les algues sur le bord des côtes pour fertiliser les sols, ils le faisaient déjà il y a des millions d'années.
Bon, vous êtes en train de me dire que vous n'avez rien inventé?
Non, rien. Il y a une seule chose qu'on a ramenée, c'est au CNRS à Roscoff. Il y a 300 chercheurs de très haut niveau, ils sont dans le génome. Et on a su justement mettre en binôme cette recherche. D'ailleurs, pour votre information, le CNRS à Roscoff, c'est 1850. J'étais dans les 10 sélectionnés à la French Tech sur le plateau du Nasdaq. Et j'avais les grands fonds d'investissement américains devant moi. Qui était hyper intéressé par les algues pour faire du sang antibiotique, du sang pesticide, du sang sel, et qui me disait mais reste pas en Bretagne, là-bas tu feras rien, et là-bas c'est des nazes, ils connaissent rien, il n'y a pas de recherche.
Si, parce que c'est en Bretagne que tout se passe, et c'est là qu'il y a le plus d'algues.
Et c'est moi qui leur ai répondu, mais la biomasse elle est là-bas, mais la recherche, on a démarré le CNRS de Roscoff en 1850, vous courriez encore derrière les bisons ici, à ce que je sache. Bon, ils n'ont pas apprécié, mais c'est ça la réalité.
Quand vous dites la biomasse elle est là-bas, il y a 800 espèces d'algues présentes.
Oui.
Là-bas.
C'est la seule zone dans le monde, la Bretagne, où on a autant de biodiversité.
Ça veut dire que c'est une spécificité unique au monde.
Mais la Bretagne, sur les algues, c'est 800 espèces. C'est un marnage d'eau exceptionnel qui fait que si on a un problème bactériologique, il se règle en 3 coups de cuir à peau. On n'a pas eu de nucléaire, parce que Fukushima au Japon, aujourd'hui, ils ont un peu de mal.
Et
on n'a pas eu de chimie. En Norvège, ils lanceraient bien des grosses usines d'algues. Ils sont d'ailleurs en train d'étudier de faire des bateaux-usines pour les bioraffiner sur des bateaux, mais ils n'aiment pas trop aller chasser dans les fonds de l'Europe du Nord, parce que quand la chimie tournait au début du siècle, il n'y avait pas de station d'épuration. Mais nous, on n'a pas eu ça en Bretagne.
Alors, vous n'avez pas tout ça, vous avez la ressource, et vous vous dites, ouais, on va s'en servir autrement, pour les animaux d'abord, ouais, et puis pour l'homme
les
ensuite.
Plantes.
Comment est-ce que vous y pensez? Qu'est-ce que vous faites de particulier?
Alors nous, Holmix, on a eu une forme d'intuition. Il y a 30 ans, donc moi je suis un fils d'éleveur de porc, et c'était l'époque où on passait de 9 à 13 porcelets par truie. Et donc les mises bas étaient assez dures. L'évolution du corps de la truie n'avait pas encore fait que elle pouvait, la génétique avait été un peu plus vite que la biologie. Donc l'idée était, pour sauver ces parcelles à la naissance, de trouver une solution pour les aider à aller à la mamelle très rapidement, boire les premiers laits, les laits immunitaires. Et l'idée a été de mélanger des argiles et des algues issues de la cosmétique, une forme de vaccin immunitaire qui imprègne l'immunité dans le parcellet. Alors une idée comme ça, alors qui était avant tout pour vendre aux Chinois, des algues en Bretagne, les Chinois aiment ça, tiens, on va faire un produit. Et ce produit, il est devenu mondial. Il est vendu dans 130 pays dans le monde aujourd'hui. Et mieux que ça, c'est qu'en 93, ce produit m'a fait faire le prix du bien-être animal. Vous imaginez le bien-être animal en 1993,
ouais,
sur le salon
précurseur.
Du Trek, on était 10 chez Holmix. Et on avait déposé notre dossier d'innovation face à tous les grands de la chimie hollandais, enfin du nord de l'Europe. Et on a fait le prix d'innovation. Donc ce qui a été marrant, c'est que la presse internationale a déboulé sur ce stand de 3 mètres carrés. On savait à peine parler l'anglais et on savait même pas faire un communiqué de presse. Et le monde entier a parlé de Mistral. Donc Mistral, c'était déjà un non-gagnant.
Oui.
Derrière, bah, c'est la cosmétique française adaptée pour l'élevage. Et pour nous, ça a été une résonance phénoménale.
Evelyne ?
Alors moi, je suis allée vous voir aussi sur Internet, j'ai regardé votre prise de parole. Alors vous avez une très très belle entreprise, mais vous avez vous-même à titre personnel une prise de parole et on vous entend, voilà, vous dites tout. C'est-à-dire vous avez déjà dégommé la Chine, vous avez déjà mis
Japon,
en valeur
tout,
voilà, la Bretagne. Enfin, vous êtes exceptionnelle, c'est-à-dire vous avez une boîte exceptionnelle, représentée par un homme qui sait prendre la parole. Tout ce que j'ai vu sur les réseaux, tout, très très moderne, c'est-à-dire qu'il y a une modernité dans le graphisme, dans la façon de présenter la boîte, on sent que... Voilà, c'est pas... On voit dans ce type d'entreprise, parfois des sites qui peuvent dater d'il y a 5-6 ans et c'est très, très has-been. Là, on sent que tout est neuf, tout est parfait. Moi, je vous dis, j'ai juste à vous dire bravo parce que y a tout dans l'entreprise et vous en premier.
Bah, allez voir YouTube, Les algues en 2050. Les algues en 2050, c'est un film qui a déjà 10 ans et il vous explique que la Bretagne, on va avancer dans les algues et on y est aujourd'hui.
Dites-moi, vous avez un badge. Qu'est-ce que c'est? Merci les algues.
Alors, ça, c'est l'association des consommateurs qu'on est en train de monter. Donc, l'IRECO, Algopac, Holmix, et on a Carrefour, Arkea Bank.
Pourquoi faire tous les acteurs.
Alors, ça va être une association des consommateurs où on a, un panel d'actions qui vont se monter et on va informer le consommateur que avec des algues, eh bien les plastiques de Algopac, dès que le consommateur va voir le petit merci les algues, il va savoir que c'est fait avec des algues. Quand il va voir le logo,
c'est un label, c'est un
ouais,
nouveau
c'est un
label que vous êtes
ingrédient.
En train de monter.
Ouais.
Et c'est tout neuf. Ça
et c'est tout neuf et on va aller sur les réseaux sociaux, on va aller chercher le consommateur en lui disant allez venez nous aider justement parce que quand lui il a Total en face, il a les lobbies du pétrole,
oui.
Moi j'ai Monsanto et compagnie,
oui.
C'est pas que des gentils tous les jours, donc il va nous falloir des millions de gens qui réclament nos produits pour qu'on arrive à sortir du bois.
Oui et puis en plus Elisabeth, c'est vrai que les algues, et ça on ne le dira jamais assez, elles ont des vertus pour la santé qui sont reconnues.
Mais oui c'est reconnu, on les surnomme les légumes de la mer, elles sont non seulement source de protéines végétales mais aussi elles sont riches en éléments qui reminéralisent, qui renforcent l'organisme, hein, avec de l'iode, du fer, du magnésium, du calcium, la vitamine C. On a l'impression que c'est une sorte d'aliment miracle.
Ouais. Non, ce n'est pas un aliment miracle, c'est le premier élément de la mer qui est sorti sur la Terre. Toutes les plantes terrestres viennent de l'algue verte. Nous, on vient de l'algue verte. Donc, d'ailleurs, nous, aujourd'hui, dans le groupe Olmix, on a isolé avec le CNRS, l'INRAN et l'INSERM une molécule qui s'appelle MSP, Marine Sulfate Polysaccharide. On appuie sur l'émetteur de 3,5 milliards d'années et le récepteur, chez nous, il répond toujours. Et donc, c'est l'immunité pour la santé.
Allez, on va voir ce qu'en pensent dans un instant nos auditeurs.
Il est 13h39.
Europe 1.
39-21 Twitter, on vous attend si vous êtes conquis ou si vous êtes sceptique. A tout de suite.
Un dossier du jour consacré aux algues, Raphaël Duchemin dans La France Bouge.
Nous sommes avec Hervé Balusson du groupe breton Olmix. Nous sommes avec Philippe Lavieille, PDG de Fermentalgues. Et avec David Coty, président d'Algopac, une PME qui remplace le plastique issu du pétrole par les algues brunes. Je voudrais qu'on écoute ce qui se dit sur les algues dans la rue, justement.
Bonjour, je m'appelle Frédéric, j'ai 53 ans. Les algues dans nos assiettes ou dans les cosmétiques, c'est du grand blabla marketing pour faire plaisir à tout le monde, les femmes bien sûr, pour leur beauté et leur jeunesse qu'elles veulent éternelle. Et on n'a pas besoin de tant d'artifices que ça dans nos vies pour être bien et se sentir belle. Ramasser des algues pour faire des cosmétiques, à une échelle nationale ou internationale, forcément, ça va créer un déséquilibre dans la flore marine.
Je vois déjà Hervé Balusson réagir. C'est du blabla, les algues ?
Oui, c'est pour ça que les Asiatiques en consomment, c'est pas 15 millions, c'est 30 millions de tonnes. Alors l'algue, c'est un renouvelable à l'infini. Ça capte du CO2, ça n'a pas besoin d'eau douce, ça n'a pas besoin d'engrais, ça n'a pas besoin de phytosanitaire. Demain, on peut nourrir l'Afrique avec les algues. C'est un discours qu'on entend, oui. Enfin, il faut creuser un peu, je pense.
Oui, et puis on va éviter de dire ça dans les Antilles, avec les 230 millions de tonnes de sargasses à la dérive, que ces algues risquent de disparaître. Ah,
ça veut dire qu'il faut, tordre le cou à pas mal d'idées reçues encore.
Je pense, oui.
Oui, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore connues, qui sont incomprises, mais comme aussi toute la recherche qui est actuellement menée, parce qu'on ne connaît pas encore la matière.
Philippe Lavielle, vous êtes d'accord ?
Oui, en disant rapidement que notre métier est assez fondamentalement différent des deux autres interlocuteurs, puisque nous utilisons la biologie des micro-algues pour produire des produits d'intérêt. Donc, mes interlocuteurs ici collectent des micro-algues dans la mer. Et les raffinent, en font des produits d'intérêt pour l'industrie, l'alimentation, etc. Nous utilisons des micro-algues, donc des micro-organismes marins que nous avons sélectionnés, que nous entraînons à fabriquer dans un environnement industriel, à fabriquer des produits d'intérêt.
Oui, mais le fait est qu'on connaît mal finalement ce qu'on peut faire avec les algues aujourd'hui. Hein.
Tout à fait, on peut faire beaucoup de nutrition, on fait beaucoup de santé, on fait des matériaux et on va faire de la dépollution.
On est capable de remplacer des pesticides aujourd'hui.
Oui.
Dans le débat de sociétal qu'il y a, on a des solutions, on l'a prouvé.
Oui, il y a le débat qui ouvre, hein. Grand débat d'ailleurs, sur le même thème que celui qu'on a connu il y a quelques mois. Vous allez, je suppose, y participer ?
Peut-être.
Peut-être. Evelyne Platnik ?
Non, moi j'ai juste une remarque un peu comme les auditrices, c'est de se dire, je pense qu'on a une vraie belle solution, c'est vrai, on a une solution, mais je me méfie des solutions miracles. Qui pendant 3, 4, 5 ans deviennent la solution, puis après on se rend compte que...
Est-ce que c'est pérenne ?
Est-ce qu'il n'y a pas d'effet secondaire malgré tout ?
C'est une des solutions, et aujourd'hui, tout ce qui a été investi en recherche et autres permet de comprendre qu'on peut faire des choses différemment, avec des résultats qui sont excellents. Mais évidemment, il faudra faire très attention à la ressource, à ne pas surexploiter, mais comme dans tout.
Mais c'est nous, le grand blanc, qui avons des problèmes avec les algues. Allez voir les jaunes, allez voir les... Il n'y a aucun problème, ils en vivent. Ils vivent avec depuis des millénaires.
Qu'est-ce que vous dites, grand blanc, peut-être pas grand... Hein, voilà, on va rester... vous voulez dire qu'en Asie, sait utiliser la ressource
depuis des siècles.
Et qu'on n'a pas honte de le faire, alors qu'effectivement...
30 millions de tonnes, nous ici, 100 000.
Ouais. Voilà. Ça veut dire qu'il y a la possibilité de le faire et qu'il va falloir commencer à y songer.
Bah oui.
Merci en tout cas d'être venus tous les trois sur ce plateau. Merci. Nous parler du pouvoir des algues.
Merci.
Il est 13h46. Restez avec nous, je suis sûre que vous n'allez plus regarder votre poubelle de bureau comme avant, parce que c'est le leader européen du marché qui la fabrique, il est français, c'est CEP, c'est l'entreprise qui va bien.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien.
Oui, et cette entreprise, je suis sûre que vous la connaissez sans le savoir, ouais. Parce que c'est CEP Office Solutions. Bonjour Cédric Longin.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de cette grande maison qui est toujours aujourd'hui 100% familiale.
Tout à fait.
Française, basée à Thiers. Et qui démarre en 1923. Alors, elle fabriquait à l'époque des manches de couteau.
Exactement. Elle est située dans le bassin de la Coutellerie. Et à la base, l'entreprise fabriquait les manches de couteau en corne. Et puis, au fil des années, le plastique a permis d'être plus efficace. Et nous avons sorti notre première poubelle de bureau en 1955.
1955.
L'entreprise a pas mal évolué.
Qu'est-ce qui se passe? Elle se réoriente? Pour quelle raison? Parce qu'il y a de plus en plus de bureaux et qu'il y a de plus en plus de besoins?
Alors tout d'abord, les difficultés de la coutellerie font qu'il faut chercher d'autres marchés. Et puis, le monde du bureau se développe beaucoup pendant les Trente Glorieuses. Donc l'entreprise s'oriente aussi vers ce marché-là.
Donc aujourd'hui, vous produisez tout encore ici en France, ou à 80% je crois en France, tout ce qui est matériel de bureau. C'est-à-dire, on parle de la poubelle, la première en 55, mais depuis il y a d'autres choses. Il y a tout ce qui est accessoires de bureau, les pots à crayons par exemple.
Tout à fait. Par accessoires de bureau, on entend la poubelle de bureau qu'on appelle dans le monde professionnel la corbeille à papier.
Oui.
Il y a également la corbeille à courrier que le grand public appelle la bannette. Il y a les blocs à tiroirs, les portes-revues. Donc tous ces produits plastiques que le grand public imagine fabriqués généralement en Chine sont en fait fabriqués en Europe et notamment en Auvergne chez CEP.
Alors en 1985, c'est la famille d'Ambricourt qui reprend l'aventure. Vous, ça fait 21 ans que vous êtes dans cette belle entreprise CEP Office Solutions.
C'est cela.
Il y a plusieurs branches, ça s'est développé comment?
Alors, Géry d'Ambricourt a racheté la société en 1985, l'a réorganisée avec trois entités. Une qui fabrique des emballages pour la cosmétique, pour les grands noms de la cosmétique.
Donc les pots, par exemple.
Exactement,
dans lesquels on trouve la crème.
Les tubes, les emballages de mascara. Il y a une autre unité qui fabrique des pots de fleurs. Et puis, il y a le CEP Office Solutions spécialisé dans les accessoires de bureau. Le lien entre ces trois entités qui peuvent sembler un petit peu disparates, c'est l'injection plastique, c'est la maîtrise de l'injection plastique. L'injection plastique, pour faire court, c'est comme fabriquer des gaufres. On a un moule, un liquide qui arrive à l'intérieur et quand on ouvre le moule, on a une forme déterminée par le moule.
Comment vous avez fait pour être incontournable? Vous êtes leader européen sur le marché de l'accessoire de bureau, c'est énorme.
C'est énorme. Disons que ce sont quelques décennies de travail. On a un design qui est très français.
Vous dites on peut reconnaître un produit qui est fait par nous, au premier coup d'œil.
Nos clients, les grands distributeurs de produits de bureau, vont reconnaître le produit au premier coup d'œil. Nous aussi, nos confrères concurrents également vont reconnaître leurs produits, les nôtres.
À quoi on le reconnaît?
Alors même
c'est
si
quoi,
ça peut être surprenant
fabrique
pour le grand public. Le design, avant tout, on a un design en France qui est un peu plus rond. Nos confrères, notamment les Allemands, ont des produits plus rectangulaires, plus carrés, plus anguleux. Donc, et le public français est très attaché à ce design plus rond, plus français, parce qu'il y est habitué, vu que nous fabriquons des accessoires de bureau depuis un demi-siècle.
Evelyne, la coach.
Oui, alors on va demander à David Coty de revenir d'Algopac, là, direct. Et moi, j'ai une question, et pourquoi pas des poubelles en algues avec notre ancien interlocuteur et abandonner définitivement le plastique?
Alors, rien n'est truqué. On s'est croisés dans votre studio et il se trouve que justement, on avait été mis en contact et qu'on a fait des essais avec les algues, avec son innovation. Les produits sont intéressants. On n'a pas encore un rendu parfait. Il faut encore que nous travaillions ensemble. Il y a notamment certaines odeurs qu'il faut réussir à masquer. Mais c'est une vraie piste d'avenir et nous travaillons chez CEP énormément sur les bioplastiques et toute l'économie circulaire qui permet de ne pas utiliser de la matière vierge. C'est vraiment une de nos pistes de développement.
Aujourd'hui, CEP, c'est 185 personnes,
c'est ça
qui travaille
185.
Au quotidien, un chiffre d'affaires qui est en hausse?
Un chiffre d'affaires de 27 millions, alors selon les activités, il peut être en hausse ou en baisse. L'activité accessoire de bureau est une activité qui n'est pas facile parce qu'elle est impactée par la dématérialisation. J'ai pu voir en passant dans vos bureaux que vous n'avez pas énormément d'accessoires de bureau parce que tout est informatisé. Donc ça, c'est une tendance de fond à laquelle nous résistons en lançant des gammes qui touchent d'autres marchés. On a par exemple lancé, on a eu pas mal de récompenses pour une gamme dédiée au service du café, du thé en entreprise. Ça n'existait pas.
Oui, et puis je voudrais qu'on parle de quelque chose qui est important aussi pour vous et qui est aussi dans l'air du temps avec le développement durable. C'est la gamme Ellipse OWA, c'est ça, fabriquée à partir de cartouches d'encre recyclées.
Exactement.
Ça aussi, c'est dans l'air du temps.
Alors oui, c'est dans l'air du temps. C'est un projet qui a été lancé chez nous il y a 8-9 ans. Donc on a toujours eu cette conscience chez CEP de la rareté des matières premières et de la nécessité de préserver l'environnement. Ça a mis du temps, ce projet, pour aboutir, et ça a abouti il y a maintenant 3 ans. Nous avons développé avec notre partenaire, la société Armor, qui est un leader français également
qu'on connaît bien,
de la fabrication...
Dans l'Ouest, hein.
Exactement, exactement.
Qu'on a reçu ici, sur Europe 1.
D'accord. Eh bien, justement, avec eux, on a mis en place ce concept d'économie circulaire. Ils récupèrent leurs cartouches d'encre lorsqu'elles sont usagées, terminées. Puis broie la matière que nous récupérons et que nous transformons en accessoires de bureau. C'est-à-dire que l'entreprise qui a utilisé des cartouches d'encre et celles-ci sont collectées, hein, ça fait partie de la loi. Ensuite, il revoit quelque part revenir sa matière sous forme de bannettes ou de pots à crayons.
C'est
et tout cela fabriqué en France.
Bravo, bravo pour ces innovations. C'est CEP Office Solutions, c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venue nous la présenter. Merci à Evelyne,
merci,
qui était notre coach. Nous, on se dit à demain.
À demain, Raphaël.
Et Elisabeth.
À demain, c'était Raphaël Duchemin sur Europe 1.